Bonsoir. Le climat s'améliore difficilement autour des équipes de lutte contre Ebola au Nord Kivu. Après la journée ville morte de Butembo et Lubero cette semaine, voilà que ces équipes elles-mêmes organisent des actions de protestation. Les agents de santé travaillant au centre de traitement Ebola de Butembo et Katwa ont écrit au coordonnateur de la riposte à Butembo et menace de suspendre toutes les activités dans ces structures si leur sécurité n'est pas garantie. Ils exigent notamment la cessation d'attaques armées et des menaces contre les personnes organisées dans la riposte. Notre second sujet de ce soir concerne les récentes péripéties au niveau de l'Assemblée nationale. Cette chambre du Parlement de la RDC connaît désormais les noms de ses dirigeants pour les 5 années à venir. Janine Mabunda, Jean-Marc Kabound, Boniface Balamag et Célestin, Moussao Kalombo, Alfani Marie-Claire et Innocent Ognon ont été chacun votés mercredi dernier comme candidats uniques à leur poste respectif. Un seul poste de ce bureau de 7 personnes reste encore vacant. L'opposition parlementaire a refusé de compétir pour ce poste lui réservé et réclame toujours d'occuper au moins 2 postes dans ce bureau. Pour évoquer ces actualités, nous serons avec Claude Molichoka-Embe, journaliste à la RTNC, Radio Nationale Congolaise, également coordonnateur national des communicologues du 3e millénaire. Claude Molicho, bonsoir.
Bonsoir, Donald Madimba.
Luc Mikomo Kabongatre, bonsoir. Journaliste à Congo Web Télévision, une télévision émettant depuis Kinshasa. Et enfin, John Kanyunyu, journaliste indépendant et correspondant de la voix de l'Allemagne Deutsche Welle à Beni, au Nord Kivu. John Kanyunyu, bonsoir.
Bonsoir, Donald.
À tous, bienvenue dans cette émission. Et comme d'habitude, premier arrêt sonore de notre magazine ce soir, la revue de presse.
Bonsoir. L'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale est parmi les grands sujets d'actualité commentés par les médias congolais cette semaine. La République démocratique du Congo a fait un pas de géant dans la promotion de la parité avec l'élection mercredi d'une femme au perchoir de l'Assemblée nationale, se félicite l'agence congolaise de presse ACP en sigle. Le média officiel fait remarquer que Madame Janine Mabunda devient ainsi la 2e femme congolaise à occuper ce poste de responsabilité après sa compatriote Philomène Omatoukou sous le régime de Mzé Laurent-Désiré Kabila. Actualité.cd parle de la satisfaction du Front commun pour le Congo, FCC en sigle, qui a salué l'élection et l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale 3 mois après l'investiture du président Félix Tshisekedi. La toute nouvelle présidente de l'Assemblée nationale a, dans sa brève allocution, après son élection, décliné les 4 priorités de son mandat. Je cite, « Notre travail sera axé sur le domaine législatif, sur le contrôle parlementaire, sur le réexamen du social des députés et sur la diplomatie parlementaire. » Fin des citations, complète pour sa part Forum des As. Observons la manière dont cette élection s'est déroulée mercredi à l'Assemblée nationale. Capsule.net soulève la problématique d'une démocratie à voix unique avec la coalition FCC-CACH. Quittons Kinshasa pour nous rendre à Beni au Nord Kivu. Les FRDC annoncent l'arrestation par la justice militaire des 11 présumés auteurs de l'attaque armée contre les cliniques de l'Université catholique de Graben ayant entraîné la mort de l'épidémiologiste camerounais déployé par l'OMS, Dr Richard Munzoko Kibound. Ce médecin de nationalité camerounaise était coordonnateur de la riposte contre l'épidémie à virus Ebola dans l'aire de santé de Mutsanga. Peut-on lire sur www.radioocapi.net. Au site de poursuivre que les agents de santé travaillant au centre de traitement d'Ebola de Butembo et Katwa menacent de suspendre toutes les activités dans ces structures si leur sécurité n'est pas garantie. Cet avertissement est contenu dans un mémorandum adressé mardi 23 avril au coordonnateur de la riposte contre Ebola dans la ville de Butembo, considéré comme foyer de cette épidémie au Nord Kivu.
Merci Kelly Nkouté. Claude Molicho KMB, journaliste à la Radio-Télévision Nationale Congolaise, RTNC en sigle, également coordonnateur national des communicologues du 3e millénaire. Avant d'attaquer le vif de nos sujets de ce soir, avez-vous une autre actualité que vous souhaiterez à ce stade nous partager?
Voilà, nous saluons cette entente dans la coalition CACH-FCC qui a débouché à l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale, parce que ça a beaucoup traîné, parce qu'il y a urgence, et on doit nommer bientôt le Premier ministre, comme l'a dit le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Donc, dans cette dynamique, nous préconisons toujours le dialogue, parce qu'il y aura toujours des couacs dans cette coalition CACH-FCC, mais on doit privilégier tous les dialogues pour essayer un peu de faire avancer le pays. Et à ce qui concerne les tickets FCC-CACH au niveau de l'Assemblée nationale, ça n'a pas posé de problème, mais on a noté vraiment une tache noire lorsqu'on a élu les gouverneurs de province, non, lorsqu'on a élu d'abord les sénateurs, et avec tout ce qui s'est passé, on n'y revient plus, mais on a salué la dynamique des négociations lorsque on a procédé à l'élection des membres du bureau de l'Assemblée nationale. Mais avec les gouverneurs, il y a aussi des remous qu'on a enregistrés, parce qu'il y a certains jeunes de l'île qui ont déclaré, demandé ce qu'on puisse vraiment tuer, s'il faut dire ainsi, l'accord FCC-CACH, sans pour autant savoir le contenu. Donc nous disons que nous devons faire avancer le pays dans cet accord, dans cette dynamique de négociation, et nous saluons les deux leaders, notamment Joseph Kabila Kabang, l'autorité morale du FCC, et le président de la République, chef de l'État, Félix Tshisekedi, vont toujours se rencontrer pour que le Congo aille de l'avant.
Merci Claude Molichaud. Regardez encore d'autres analyses tout à l'heure, puisque vous avez un peu grignoté le sujet que nous allons aborder tout à l'heure, mais nous allons y revenir avec des détails supplémentaires tout à l'heure. Luc Mikomo Kabongatre, journaliste à Congo Web Télévision, une télévision émettant depuis Kinshasa, votre avant-goût informationnel.
Oui, c'est notamment cette histoire de la paye des agents de l'État qui suscite encore beaucoup de remous, avec de retards. Par exemple, à Kikwit, les agents de l'ESU ont été payés depuis le samedi dernier, mais à Kinshasa, jusqu'à présent, ils ne sont pas encore payés. On se demande qu'est-ce qui se passe, puisque l'argent qui sert à la paye de ces agents-là provient de Kinshasa. Comment comprendre que dans la province, l'on puisse payer les gens, et qu'à Kinshasa, les gens soient impayés? On a comme l'impression que à Kinshasa, il se passe des magouilles, le mot n'est pas trop dur, parce que depuis une semaine, déjà payé à Kikwit, par exemple, mais à Kinshasa, jusqu'à présent, rien. Magouille dans le sens où il y a encore les habitudes des agents qui s'occupent de la ligne de paye du personnel, qui fructifie l'argent par des cambistes et qui font prendre du temps avant de remettre l'argent entre les mains de ses bénéficiaires. Ça, c'est quelque chose sur lequel le chef de l'État actuel doit ouvrir grand les yeux, parce que le régime passé, le régime de Kabila, a carrément fermé les yeux là-dessus. Il y a eu beaucoup d'abus et ça tente à continuer. Il faut mettre un frein automatique à cette pratique qui désagrège la nature même de la fonction publique.
Merci Luc Mikomo Kabongatre. John Kanyunyu, journaliste indépendant et correspondant de La Voix de l'Allemagne, Deutsche Welle, à Beni, au Nord Kivu, votre commentaire libre.
Oui, pour l'information, au niveau local ici, il y a cette mission diplomatique qui est passée par à Beni, l'ambassadeur de la République de l'Ouganda, accrédité à Kinshasa, était sur place ici, et il a payé une visite de civilité chez le maire de Beni. Après cette visite, il a dit à la presse être là pour essayer un peu de voir comment libérer les prisonniers ougandais qui sont incarcérés ici. Il a parlé de certains pêcheurs qui étaient arrêtés sur les eaux du lac Édouard vers Kavinyonge, en territoire de Beni. Et tant qu'ils ont visité la prison centrale de Beni, communément appelée Kangwai, ils ont fait contact sur 100% des prisonniers ougandais sur le sol congolais ou dans des prisons congolaises, il y avait 60% des détenus qui étaient des combattants ADF. et 40% étaient ceux Ougandais qui étaient arrêtés pour des faits d'honneur. Alors, il a dit aussi qu'il va que son pays était prêt d'appuyer la RDC pour combattre les rebelles de l'ADF. Il a dit que l'Ouganda n'attend que le feu vert de la RDC pour rentrer dans la danse. Donc c'est un peu ça l'actualité qui a prévalu ici, comme l'actualité sur la riposte contre la maladie à virus Ebola est dans notre sujet. Je me réserve de faire un commentaire là-dessus.
Merci John Kanyunyu, puisque vous en parlez, sans plus tarder, nous y allons. Lutte contre Ebola au Nord Kivu, les agents de santé travaillant au centre de traitement Ebola de Butembo et Katwa menacent de suspendre toutes les activités dans ces structures si leur sécurité n'est pas garantie. Ils exigent la cessation d'attaques armées et des menaces contre les personnes engagées dans la riposte. Ils l'ont signifié dans leur mémorandum adressé mardi au coordonnateur de la riposte contre cette maladie à Butembo, ville considérée comme foyer de cette épidémie au Nord Kivu. Plus de détails avec Papi Martial Mukeba.
C'est une centaine de médecins, infirmiers et hygiénistes qui disent craindre pour leur sécurité. Dans ces mémorandums, ces personnes qui travaillent depuis 8 mois au centre de traitement Ebola de Butembo et Katwa dénoncent les menaces de mort proférées par la population envers les agents qui travaillent dans ces structures de santé, les incursions nocturnes dans leur domicile et l'assassinat des agents impliqués dans la riposte contre Ebola. Suite à cette situation, les signataires de ces documents annoncent que d'ici des jours, ils admettront que les malades qui pourront solliciter leur service au centre de traitement Ebola tout en continuant de prendre en charge ceux qui y sont déjà alités. Les médecins, infirmiers et hygiénistes des centres de traitement Ebola de Butembo et Katwa menacent de suspendre leurs prestations dans ces structures si leur sécurité n'est pas garantie. Ils exigent également la tenue des audiences publiques des personnes capturées par les forces de défense et de sécurité lors des différentes attaques des centres de traitement Ebola de Butembo et Katwa. Béni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Claude Molicho Kayembe, journaliste à la Radio-Télévision Nationale Congolaise, RTNC, également coordonnateur national des communicologues du troisième millénaire. Voilà plus de 8 mois que Ebola sévit au Nord Kivu et plus de 8 mois qu'on commente cette actualité avec souvent de pistes de solutions, mais rien n'y fait. Ebola reste présent dans le Nord Kivu et en Ituri et aujourd'hui c'est des nouvelles menaces qui guettent au sujet de cette maladie. Votre analyse.
Merci Donna. D'abord, vous conviendrez avec moi que cette situation a été envenimé par les acteurs politiques. Nous venons de passer la campagne électorale ici au mois de décembre. On a senti un discours vraiment qui n'est pas responsable pour les chefs des différents partis, pour les acteurs politiques, surtout les sortissants.
Très brièvement, on peut savoir le contenu de ces discours.
Ils ont dit que Ebola, c'est une fabrication des gouvernements de Kinshasa, des gens qui sont ici à Kinshasa.
Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on connaît ces acteurs?
Alors, il faut repousser, il faut refuser, il faut pas accepter d'être vacciné, il faut pas accepter cette maladie. D'autres ont pensé que c'était la sorcellerie. Non. Maintenant, aujourd'hui, ils sont élus comme députés nationaux. Mmh. Qu'ils aillent démentir qu'effectivement, c'est une maladie qui décime cette partie de l'histoire nationale.
On connaît bien ces personnes qui ont tenu ces discours.
Oui, les acteurs politiques qui originaires sont de ces coins, originaires de ces coins, pendant la campagne électorale, nous les avons accompagnés. Mais nous nous sommes dit que non, c'est vraiment une aberration. Comment une maladie qui s'est déclarée il y a quelques années dans les bandes de l'ex-Bandundu, à l'Équateur et par-ci par-là, même au Libéria, et qui est connue. Le mode de transmission est connu, donc nous savons comment ça se manifeste et comment les gens sont contaminés. Mais vous vous dites que non, c'est une fabrication de Kinshasa, même si vous n'aimez pas les autorités qui étaient à Kinshasa. Non, aujourd'hui maintenant ils donnent raison que non. Moi je pense que ces acteurs politiques là qui ont envenimé la situation doivent rentrer encore à Beni parce qu'ils sont à l'Assemblée nationale et d'autres sont au Sénat pour essayer de dire que effectivement vous devez vous faire vacciner.
Mais est-ce que la justice
doit changer aussi sur le plan médical?
Est-ce que la justice peut poursuivre ces gens notamment pour exposition d'autrui
personne en danger? Oui, effectivement, parce que ce discours a été entendu, a été même enregistré par nos journalistes. Je crois que mon confrère John Kanyunu qui est à Beni, il va pas me contredire. Donc nous disons que ces gens-là ont l'obligation d'aller dire à la population que non, nous avons commis une erreur et il faut rectifier. De deux, c'est au niveau de la sécurité. Donc, nous devons essayer un peu de sécuriser les structures de santé. Comment on doit s'attaquer à des hôpitaux, même pendant la guerre traditionnelle, conventionnelle, là, c'est interdit de s'attaquer à un hôpital ou à un centre de santé. Mais comment les gens doivent s'attaquer au personnel soignant? Et même les étrangers des Nations Unies qui sont venus soigner les Congolais. Mais c'est inconcevable. Donc moi j'ai dit que ça c'est la responsabilité du gouvernement central de Kinshasa qui doit cette fois-ci, même si le chef de l'État est passé par là, mais c'était un discours aussi, ça continue, les centres de cadres ont été attaqués, un Camerounais des Nations Unies a été tué. Donc nous devons, et les personnes qui menacent d'aller en grève aujourd'hui, ils ont raison parce qu'ils sont en insécurité pendant qu'ils cherchent à sauver les vies humaines et même ils sont en danger.
Est-il possible aujourd'hui que, comme vous le proposez, que le pays prenne des mesures qui vont mettre fin non seulement à l'insécurité habituelle qui sévit dans cette partie du pays, mais aussi cette insécurité ponctuelle qui menace la riposte?
C'est ce qui est grave, donc c'est une accentuation de la situation. Pendant 20 ans, des bandes armées, des groupes armés ont tué, continuent à tuer, à égorger même les populations civiles qui ne demandent que la paix parce que c'est une population qui s'adonne à l'agriculture. Mais aujourd'hui, on ajoute encore les attaques contre les structures de santé et les personnels soignants. C'est vraiment inconcevable. Il y a même quelqu'un qui a bien qui nous a appelé pour dire que non, Ebola ngo pour la ligne 4 c'est ngambuté à ya Rwanda ou bien au Uganda. Ça j'ai dit en lingala parce que je ne voulais pas que les étrangers puissent nous comprendre. Parce que nous disons que non, c'est pas question d'être que Ebola traverse vers le Rwanda ou le Rwanda ou le Uganda. Non, les problèmes sont au niveau des soins de santé, qu'on s'attaque à cette épidémie qui décime les populations dans cette partie du territoire national. Et c'est déjà presque une année que les gens meurent. En plus d'être égorgés, c'est l'Ebola maintenant qui est en train de déranger ces coins de la République.
Et Luc Mikomo Kabongatre, journaliste à Congo Web Télévision, une télévision émettant depuis Kinshasa, votre lecture de ce énième feuilleton de la lutte contre Ebola au Nord Kivu.
Je crois que, John, il y a eu effectivement la présence de la maladie à virus Ebola, mais il y a eu, me semble-t-il, une certaine politisation du fait social qui est la maladie, et cette politisation est partie d'abord de la CENI. Je responsabilise par votre micro la CENI qui a essayé de amplifier l'ampleur de la maladie. Elle a suspendu la tenue des élections dans cette partie du pays, mais quand elle a organisé les élections dans cette partie du pays, la maladie n'était pas encore vaincue. Elle continue. Donc, s'il y a eu politisation de l'affaire Ebola, la CENI est responsable de cette politisation. Ensuite, que...
Elle a pris part.
Que les agents, les médecins, les infirmiers impliqués dans la riposte contre l'Ebola se sentent dans l'insécurité maintenant. Cela a commencé depuis avant le départ de Kabila. Donc, Kabila, partant, a laissé la situation telle qu'elle. Monsieur Félix Tshisekedi, il est entré, il est passé par là, Claude l'a dit. On n'a pas encore trouvé des solutions idoines pour mettre fin à cette épidémie, à cette maladie. Mais quand les groupes armés s'attaquent aux agents de santé, ça devient encore pire. C'est qu'on est en train de vouloir amplifier et la maladie biologique Ebola et la maladie endémique, les attaques de groupes armés, mais aussi on est en train d'affaiblir toutes les structures sociales de pouvoir tourner correctement. Si on sait que le pays est attaqué, le pays, c'est-à-dire le coin, est attaqué par l'Ebola, la peur va gagner le cœur, non pas seulement des villages où les cas ont été constatés, mais ça va traverser tous les villages. D'ailleurs, Claude dit, les gens se demandent, mais comment cet Ebola ne traverse pas de l'autre côté, alors qu'il y a des échanges? Alors, moi je pense que la responsabilité devient d'abord à l'État, pour maîtriser les mouvements des gens, à l'État pour instaurer la paix dans cette partie qui a depuis maintenant 2-3 ans exposé à l'insécurité criante. Et donc la solution à ce problème d'Ebola doit être holistique, globale.
Luc Mikomo, pour vous, comment en est-on arrivé à ce niveau où non seulement la maladie elle-même est un problème, il y a eu politisation comme vous avez dit, et désormais il y a intervention des groupes armés et des attaques extérieures qui viennent justement comme pour saper les efforts qui sont faits là-dessus. Est-ce que pour vous, ceci explique les allégations qu'on a toujours entendues jusqu'ici, qu'il y a comme une espèce de complot pour non seulement que cette épidémie dure un peu plus en République démocratique du Congo, ou peut-être même décime une bonne partie de la population congolaise?
En fait, l'analyse qu'il faut faire doit être, holistique. S'il y a eu politisation, effectivement, il y a eu politisation de cette maladie. C'est pourquoi, pour le bas peuple, il prend tout dans un même sac. Mais la présence de la maladie à virus Ebola est aussi avérée. Là, il faut un peu plus de rationalité. Je crois que ça appartient aux hommes spécialistes du domaine à pouvoir présenter le problème comme il faut. Maintenant, l'implication des groupes armés, c'est dans le pan politique que les groupes armés entrent. Les groupes armés profitent de la fragilité sociale, de la fragilité sécuritaire pour venir semer la désolation et la mort.
Merci Luc Mikomo Kabongatre. John Kanyunyu, journaliste indépendant et correspondant de La Voix de l'Allemagne, Deutsche Welle, à Beni, au nord Kivu. Vous qui êtes sur place et qui en savez, j'imagine, un peu plus que nous qui sommes loin, qu'est-ce qui, selon vous, explique la situation d'aujourd'hui?
Moi, je pense que les collègues ont essayé un peu de décortiquer ce qui se passe ici. Bon, je ne dis pas qu'ils ont tort et je ne dis pas qu'ils ont raison. Mais ce qu'il y a à faire aujourd'hui avec cette résistance qui n'est plus populaire, à mon avis, parce que maintenant, ce sont des groupes armés qui s'attaquent aux équipes de la riposte. Ce sont des groupes armés qui s'attaquent au centre de santé et autres cliniques. Je pense que maintenant, l'heure n'est plus à spéculer qui a fait quoi, qui a amené cette situation au stade actuel. L'heure maintenant est de savoir qu'est-ce que le gouvernement va faire pour en finir avec cette maudite maladie, que moi je l'appelle ainsi, parce que j'ai eu à perdre certains membres, certains amis avec cette maladie.
John, oui, tout à l'heure, vous allez nous livrer en dernière intervention, quelle est la piste de solution selon vous, mais est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre un peu comment en est-on arrivé à cette situation si généralisée, si complexe? Y a-t-il selon vous un complot aussi généralisé de laisser la population mourir, comme je disais tout à l'heure à Luc, la maladie elle-même est assez complexe à résoudre. Et puis on a vu la politisation qui s'est mêlée, et maintenant c'est des groupes armés qui interviennent. On entend même parler des groupes intégristes qui interviennent et qui agissent maintenant pour semer l'insécurité dans cette partie du pays. Y a-t-il par exemple des djihadistes maintenant qui ont décidé d'intervenir pour semer l'insécurité et empêcher la riposte contre cette maladie?
Demain, si je me mets à expliquer tout ce qui se passe ici, je pense qu'on n'aura même pas le temps de terminer cette émission.
Donnez-nous quand même quelques pistes. Donnez-nous quelques pistes aussi, Anna, s'il vous plaît.
Ce qui se passe à Butembo actuellement, c'est la conséquence de la mauvaise communication. Et vous comprenez que cette région, longtemps meurtrie, la plupart d'habitants les habitants sont traumatisés et certains ne comprenaient pas comment on pouvait déployer tous les moyens financiers, matériels et même humains dans la riposte contre Ebola pendant que ça fait au moins 5 ans que les ADF sont présumés tuer les gens ici à Beni, la ville voisine à celle de Boutembo. Et c'est un peu ça, c'est un peu ce traumatisme là, à mon avis, qui serait à la base de tout ça. Et bon, comme mes collègues l'ont dit, certains hommes politiques en ont profité, parce que la population est naïve ici, et comme la population n'était pas à bon auberge de sainteté avec le régime passé, tout le monde qui pouvait dire quelque chose ou lancer un mot contre la riposte à la maladie à venir d'Ebola, ce mot-là était le bienvenu, et tout le monde pouvait spéculer là-dessus. Et à Boutembo maintenant, comme Beni, la maladie est venue de Mangina, un village situé à au moins une vingtaine de kilomètres à l'ouest de la ville de Beni. Là-bas, la population a compris que cette maladie existe et qu'elle tue. Il n'y a plus de cas aujourd'hui. À Beni même, au départ, il y a des gens qui s'attaquaient aux équipes de la riposte, et l'attaque qui a été la plus coûteuse, c'était celle d'après le report des élections dans cette contrée. Et moi, je me dis, là, je reviens sur ce qu'ont dit mes prédécesseurs, et c'était une erreur grave pour l'intérêt institutionnel de demander ou de proposer à la CENI de reporter les élections dans cette contrée, parce qu'il y avait Ebola et les ADEF qui étaient ici. Et moi, je me dis, avec ça, et comme la population n'était plus à bonne odeur de sainteté avec le régime passé, cela a, à mon avis, accentué cette résistance.
Ouais.
Bien que maintenant, ce sont des groupes armés qui sont mêlés, et certains groupes aussi de pression. Je vais citer,
oui, allez-y.
Ebola maintenant est pris ici pour business. Business pourquoi? Vous imaginez, il y a des titres qui sont pris à location. Je m'en vais pas aux propriétaires de ces titres-là, mais imaginez-vous quelqu'un qui a 10 titres dans la riposte, il a peut-être 20 titres, et qui n'a pas besoin de passer par les commissionnaires. Donc, une Jeep est louée ici à 100 dollars, et du coup, en un mois, 10 Jeeps, vous avez 30 000 dollars. Et vous imaginez que quelqu'un, je n'indexe personne, quelqu'un qui a tous ces intérêts-là, n'est pas l'intention de chercher certains jeunes drogués et puis les envoyer attaquer certains centres de riposte pour que les malades confirmés ou les cas confirmés d'Ebola disparaissent dans la nature et puis qu'on reste dans un cycle vicieux.
Merci,
donc,
John.
Moi, je pense que...
Merci.
Ce qui se passe ici, le gouvernement doit prendre ses responsabilités pour prouver aux gens que l'État existe. Ou soit, je me dis que le gouvernement prenne cette situation, cette épidémie, cette épidémie comme une urgence sécuritaire afin que les forces armées soient déployées dans des centres
en nombre suffisant.
De structures sanitaires ou dans des centres de traitement de Ebola. Et cadrer même certaines zones pour essayer un peu de faire voir à la population que cette maladie, nous avons tous l'obligation de l'éradiquer dans cette région. Et pourquoi même pas essayer un peu de cadrer un certain coin où se vit la résistance, faire voir à la population que maintenant ça ne vaut pas la peine de s'attaquer aux équipes de la riposte, et nous avons tous intérêt que cela prenne fin, pour que tout le monde va à ses occupations.
Merci John Kanyunyu, le débat est intéressant. Je vois que les collègues ici au studio voudraient encore réagir, mais le temps qui nous est imparti nous oblige à poursuivre l'émission. Nous allons probablement à la fin dire un dernier mot s'il y a encore quelque chose à dire sur cette maladie. Le temps d'aborder le deuxième sujet, ça y est, c'est fait. L'Assemblée nationale a désormais son bureau définitif. Le vote et l'installation de cette équipe ont eu lieu mercredi. Ce sera donc Janine Mabunda, Jean-Marc Kabound, Boniface Balamagé, Célestin Moussa Okalombo, Alphani Marie-Claire et Innocent Ognon qui vont diriger ce bureau définitif de l'Assemblée nationale de cette mandature pour 5 ans. Michel Kifinda nous donne de plus amples explications.
Jeannine Mabunda Lyoko Mudiaï du PPRD est désormais président du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Candidate unique à ce poste, Jeannine Mabunda vient d'être plébiscitée par la majorité absolue des députés présents au moment du vote. Elle est secondée par Jean-Marc Kabound de l'UDPS, premier vice-président, et Boniface Balamagué de AAB au poste de deuxième vice-président. Célestin Moussao Kalombo est désormais rapporteur de l'Assemblée nationale, alors que le poste de rapporteur adjoint réservé à l'opposition reste vacant. Au poste de questeur, Madame Alphani Marie-Claire de l'AFDCA, candidate unique, vient aussi d'être plébiscitée par la majorité des députés présents. Elle sera secondée par Innocent Ognon de AABC au poste de rapporteur adjoint. Il faut noter que sur les 500 députés que compte l'Assemblée nationale, plus de 370 ont pris part au vote. Tous les 113 députés de l'opposition ainsi que certains de la majorité n'ont pas participé à l'élection. En effet, mécontents du seul poste de rapporteur adjoint qui leur a été réservé alors qu'ils revendiquaient 2 postes sur les 7, les opposants ont décidé de n'occuper aucun poste tant au bureau définitif que dans les commissions permanentes et sous-commissions. De Palais du Peuple, Michel Kifindangoy, Radio Okapi.
Claude Molicho, une étape de plus hein, de franchise dans l'installation de toutes les installations de la mandature Fatshi, mais toujours autant de divergences au sein de l'opinion. Qu'est-ce qui explique cela selon vous?
Donald Madimba, il faut toujours s'attendre à ce genre de gesticulations. Il y en aura encore, il y en aura toujours. Nous sommes en politique, on ne se fait pas des cadeaux. En politique, ce sont les intérêts d'abord qui priment. Mais ici, j'aimerais dire aux acteurs politiques de respecter les lois de la République, c'est-à-dire la Constitution, les lois de la République et même les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale. Parce que quelqu'un qui refuse de voter, il est libre, on ne peut pas l'arrêter, surtout que c'est un député. On peut même boycotter les séances comme les députés de l'opposition l'ont fait. Ils sont libres, ils peuvent même aller, comme ils l'ont dit, de saisir les cours des tribunaux, les conseils d'État. Pour demander l'annulation de l'élection du bureau définitif de l'Assemblée. C'est de leur droit. Mais les principes ont été respectés, les lois ont été respectées, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale a été respecté.
Donc, mais Claude Molicho, est-ce que la majorité parlementaire n'est-elle pas exagérément gourmande dans la répartition des postes?
Non, c'est clair, Donald Madimba.
Parce qu'on ne peut pas dire que la majorité n'a pas suffisamment, entre parenthèses, mangé. La majorité est majoritaire, justement, dans les assemblées nationales au niveau numérique, provincial aussi, au niveau de la représentation.
Même au Sénat.
Au niveau de la gouvernance des provinces aussi, au Sénat. Est-ce que la majorité parlementaire ne pouvait pas céder un seul...
Non,
entre guillemets,
il faut les mériter, il faut mériter, et non pas par pitié, non. Quand on a 1,3, 1,2 ou 1,4, on ne doit pas arrondir à 2. Non, on arrondit quand c'est 1,5.
Si la majorité avait cédé cet autre poste, qu'est-ce que ça aurait changé selon vous?
Non, moi je pense qu'il faut mériter. On ne doit pas dire parce que non, je dois aimer Donald Madimba par pitié, non.
Non, c'est pas une sorte de pitié, mais c'est une sorte de pacification sociale. Juste un instant. Aujourd'hui, toutes les sociétés du monde militent pour qu'il y ait une présence féminine intéressante dans les institutions. Et il y a des procédures, pas de mérite, mais des procédures de justice sociale qui font qu'il faut qu'on donne aux femmes un certain quota. On peut aussi prendre
C'est réglementé
sociale.
Par la loi.
Oui.
C'est la loi qui le dit. Même la Constitution exige assez qu'il y ait la parité.
Oui, mais même sans la loi, on peut faire de bonnes choses.
Bien. Ensuite, la déclaration rendue publique par l'opposition, par l'entremise de l'honorable Lutundula, on dirait que c'était un droit. Non, ils n'ont pas droit. S'ils étaient humbles et modestes, ils allaient négocier. Et négocier, on peut les donner même 3 postes, pourquoi pas. Mais ils ont dit que c'était un droit, alors que si c'était un droit, allez saisir le
Peut-être tribunaux. Que la communication était mauvaise, mais
oui.
quelle est votre analyse, la
communication était mauvaise.
Oui, quelle est votre analyse maintenant? Parce que une fois que le bureau a été installé, une fois que la présidente a été désignée à la personne de Madame Mabunda, vous-même, vous avez vu des réactions. Il y a des réactions positives, mais il y a aussi des réactions
négatives.
Très violentes.
Oui.
Très violente.
Ça fait partie de la beauté de la démocratie.
Notamment une lettre ouverte que tout le monde a lue.
Oui.
Très, très agressive.
Moi, je verse ça dans les contextes démocratiques. Donc, dans la démocratie, c'est pas par non, parce qu'il est beau ou elle est belle ou qu'on doit. Non.
La démocratie a des principes qu'on doit respecter.
Comment voyez-vous l'avis de notre...
La majorité s'est prononcée.
De notre Assemblée nationale.
A porté son choix sur Mabunda.
Comment voyez-vous l'avis de notre Assemblée nationale avec une cohabitation...
Moi, je pense que...
qu'on connaît pas facile.
Moi, je pense que... On fait confiance au nouveau bureau. Madame Mabunda sera au centre du débat et elle va accorder la parole à tout le monde dans toute liberté et en toute démocratie. Tout le monde va s'exprimer et c'est question de participer efficacement. Ils ont dit qu'ils vont sécher. Et même les sous-commissions et les commissions, bon, c'est de leur droit, on ne peut pas les condamner.
Vous avez déjà dit ça. Merci beaucoup Claude Molicho, Luc Mikomokabongatre. Le nouveau bureau est là, il y a ceux qui sont contents, ceux qui sont mécontents. Madame la nouvelle présidente est très visée par beaucoup d'allégations. Comment voyez-vous la vie dans cette nouvelle Assemblée nationale? Elle promet d'ailleurs de toucher un peu à la Constitution. Comment voyez-vous tout ça?
Moi, je pense que l'avenir de l'Assemblée nationale actuelle me semble pas réluisant. Il me semble que hier, ce qu'on a vécu, on a vécu à une cérémonie qui a ôté à la démocratie toute sa substance. D'ailleurs, lorsqu'on a proclamé Madame Mabunda élue, la joie n'était pas à son comble.
On a senti... Dans votre cœur ou dans le cœur de qui?
C'est d'après les yeux, le regard que je dardais sur les participants. Vous savez, il y a...
Pourtant, la salle était bruyante. Hein. La salle est restée bruyante pendant un bon moment.
Il y a un adage dans le Cid qui dit « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. »
Mais Claude Maurice dit qu'il y avait une grosse fête hier pour célébrer tout ça.
La fête, c'est bien pour la décoration. Mais est-ce que foncièrement, Madame Mabunda a concouru avec quelqu'un? Il n'y avait pas de concurrent face auquel Madame Mabunda devait combattre pour arracher cette victoire. Est-ce que Madame Mabunda n'est pas compétente? Que non, elle est compétente.
Mais elle a cette absence beaucoup de concurrence concerne pas que Madame Mabunda, ça concerne tous les candidats.
Oui,
les
mais c'est ça justement, c'est-à-dire que la cérémonie d'hier était fade. Passez-moi l'expression. Moi, je pense que...
Notamment à cause de cette absence de concurrence pour tous les postes.
Au fait, on aurait pu... ne pas organiser ce vote-là, on connaissait déjà qui va l'emporter. Et c'est ce que nous avons vu.
Vous avez le sentiment que c'était ce sont des nominations.
Moi, je pense que c'était une mise en scène, une formalité, simplement pour se conformer par rapport à la Constitution, mais déjà le jeu était fait.
Qui peut-on blâmer dans ce cas? Doit-on blâmer aussi le président de la République qui fait partie de cette coalition ou seulement les anciens pouvoiristes qui aujourd'hui sont dans l'opposition?
Non.
Constituent la majorité.
C'est-à-dire que le jeu n'était pas juste. Il n'y a pas eu compétition. Moi, j'ose croire que quand bien même M. Lokondo aurait été candidat, il serait battu par rapport à la discipline, me semble-t-il, qui a semblé avoir lieu au niveau de la majorité. Donc, il serait battu et Madame Jeanine Mabunda serait heureuse d'avoir remporté la victoire
en
après confrontation. Mais cette confrontation n'a pas eu lieu.
Et c'est ça qui met un peu le goût.
C'est ce qui a ôté toute la substance à la démocratie.
Oui.
Vous savez, John Rawls dit, il faut que nos sociétés aillent vers des sociétés des gens bien organisés. Mais est-ce que ce que nous avons eu hier est le fruit des gens vivant dans une société bien organisée?
Merci.
Et d'une société qui veut s'améliorer dans l'avenir? Je crois que non.
Merci Luc Mikomo. Cette interrogation va rester aussi dans les têtes pour que les gens puissent réfléchir suffisamment à ça. John Kanyunyu, journaliste indépendant et correspondant de La Voix de l'Allemagne, Deutsche Welle, à Beni, au Nord Kivu. Quel est votre sentiment de la péripétie qui est intervenue dans cette élection à l'Assemblée nationale?
Oui, demain, moi je l'ai dit, c'est aussi ça la conséquence de la démocratie. Nous avons opté pour la démocratie et nous devons supporter toutes ces conséquences. Imaginez-vous une seule candidate et puis voilà, élue. Et moi, je me dis, malheureusement, ça pouvait violer notre constitution ou soit leur règlement d'ordre intérieur. Mais moi, je dis, il fallait qu'on accepte aussi la candidature de Lokondo. Et cela serait quand même comme si c'était une compétition. Mais bon, comme ça s'est passé comme nous l'avons vécu, voilà, on a qu'à se plier sur ce qui a été fait. Et maintenant, je me dis, dans l'avenir, il faut voir comment changer les choses, parce que quand on doit être élu de cette manière-là, ça n'honore même pas l'heureuse ou l'heureux élu. Et puis voilà, je me dis, comme c'est le mandat est de 5 ans, nous pensons que l'heureuse élue, la présidente de cette chambre-là, fera quelque chose pour un peu échanger les choses. Mais bon, nous sommes en démocratie et voilà les conséquences. Moi, je me suis toujours flatté d'un exemple de la province du Nord Kivu. Au Nord Kivu, il y a deux grandes communautés. Je ne suis pas tribal, mais je suis obligé de les citer. Il y a les Nande et les Hutu. Et jusqu'à la fin de la démocratie dans notre pays, le poste de gouverneur, à mon avis, sera occupé par un membre de l'une de ces deux grandes communautés. Et le poste de l'Assemblée provinciale sera occupé par un membre de l'une de ces deux communautés. Voilà, à mon avis... dans cette législature, il faut que les élus députés voient comment essayer un peu de rétablir les choses. Merci. Nous ne devons pas suivre la démocratie à l'aveuglette.
Merci.
Nous ne devons pas suivre la démocratie à l'occidentale. Donc, cette législature, moi je me dis, c'est un exercice, c'est un ECR, ceux qui sont là, qu'ils voient comment essayer un peu de changer les choses, parce que je pense que la démocratie que nous avons aujourd'hui ne nous mérite pas, vu les réalités de notre pays.
Merci, John Kanyunyu. C'est déjà le moment de conclure. Quel est votre dernier mot? Que peut-on retenir de l'ensemble des sujets que nous avons traités ce soir avec 15 secondes de prise de parole?
Oui, je me dis bonne chance aux élus de l'Assemblée nationale. Le peuple attend beaucoup d'eux. Qu'ils fassent preuve du sursaut patriotique pour que la population, une partie de la population qui était mécontente de la gestion, du mode de gestion du régime passé, se dise que bon voilà, il y a eu quand même changement à la tête du pays, il y a eu changement à la tête des institutions. Voilà ce que la population attend de nouveaux élus ou des élus.
Merci.
Pour cela, je me dis, l'État doit prendre ses responsabilités.
Merci.
L'État existe à Butembo. Et l'État ne doit pas, le gouvernement ne doit pas faire comme si à Butembo vivait dans une jungle.
Merci, John Kanyunyu. Luc Mikomokabongatra, en très peu de mots, 20 secondes maximum, que peut-on retenir de ce débat de ce soir?
En fait, de ce débat, moi je dis que, avec Kant, qui disait, le langage est le creuset où se forge la conscience de soi comme sujet. Ce que nous voulons faire de notre pays, nous devons le faire avec responsabilité. Nous devons faire que les erreurs du passé puissent nous instruire pour que nous allions dans un monde plus beau à vivre, mais à vivre dans un élan du vivre ensemble.
Merci.
Et Hegel nous dit également que l'existence consciente est un dédoublement du monde. C'est-à-dire que si hier, nous avons été un peu moins conscients, aujourd'hui, nous devons être moins conscients.
Faire preuve de beaucoup plus
nous
de conscience.
Devons être plus conscients, plus améliorés et à même
et mieux
de
faire,
face aux erreurs qui nous ont conduits dans l'abîme hier.
Merci Luc Mikomo. En très peu de mots aussi, Claude Molichaud.
Je serai très bref, Donna. Il y a urgence aujourd'hui qu'on mette en place les gouvernements. Heureusement que le chef de l'État est venu à l'étape d'Kisangani est revenu sur cela.
Il y a urgence,
comme il y a déjà un bureau définitif, on doit nommer le Premier ministre, on forme rapidement les gouvernements et les choses vont se relancer.
Merci Claude Molichaud, merci à tous les trois. Alain Ngoy était à la technique, Hélène Couté à la réalisation, supervision de l'équipe est là, Donna Madimba, c'est moi à la présentation. Merci de votre attention. Au revoir.